Evet. Que les, oui. La foudre et les tempêtes, que les autres sont sous une canicule épouvantable. Nous, on est bien.
Tombé trop doux à Paris-Mania. Je viens de faire un chantier, ils m'ont pas pu me le faire. J'ai trop de... Tracteur, il s'enlise. Tellement je suis au courant de tout maintenant. Même nouveau. C'est tout là, mais ça, c'est tout là. C'est incroyable, hein?
Oui, on a demandé à Saint-Hildegarde d'écarter de la région de toute la canicule et aussi de tous les désastres des vents et des orages. Et bien, vous voyez, elle a dit d'accord. Parce que vivre ce que nous vivons dans la canicule, c'était impossible. Ah, j'ai cette tête de garde, vous m'écartez tout ça. Hein. Ah, c'est bien. C'est ce que dit aussi Anne-Catherine Emmerich, on a autorité sur les nuages, les orages. Ça. On peut très bien leur demander, hein, parce que... on a autorité, roi fraternel de l'univers, on commande. C'est incroyable, la. La foi a disparu. Hein? La foi a disparu. Si moi, je connais des gens qui ont vécu 5 ans avec une très grande ferveur catholique, jamais, jamais, ils n'imaginent qu'ils sont les rois fraternels de l'univers. Tu dis, bon, non. On est soumis aux éléments, on est soumis aux éléments, c'est les éléments qui nous sont soumis. Pourquoi le Christ est mort pour rien? Oui, on est... Alors, je vais, si vous voulez bien, on va lire la deuxième fission. La deuxième fission du livre des œuvres divines. On va faire sauter des passages parce que c'est véritablement c'est très long. Il faudrait 3 heures pour le lire. Hein. C'est une très belle vision, comme toutes les visions de Saint-Hildegarde. Hein. Mais elle a l'avantage de nous accoutumer au langage de Dieu, quoi. Donc ceux qui n'étaient pas là au petit déjeuner, vous voyez, on était Lucifer était orné de... C'était l'ange de la vastitude la plus lumineuse, la plus glorieuse et la plus précieuse en Dieu. Dieu est lumière. Et il a voulu créer un être de lumière qui soit lumière de Dieu en lui-même, mais de manière créée. Parce que dire que Dieu est lumière, c'est fou. Mais lumière incréée, il est non pas créé, il n'est pas créé Dieu, il est une lumière non pas créée. Il est créateur d'une lumière qui est la sienne, mais qui est créée, c'est Lucifer. C'est pour vous dire la grandeur de Lucifer. Si un jour Lucifer vous apparaît, vous serez strictement incapable de faire la différence entre lui et Dieu, puisqu'il n'y a pas de différence. Et que Dieu n'a pas renoncé. Il en est le même pour l'Antichrist. Il n'est pas lié à sa subsistance dans l'incarnation incrée du Verbe. Mais il lui ressemble, il est séduisant. Il a cette séduction. Il a voulu naître d'une vierge, une fausse vierge. Il n'est pas issu de la sponsalité, voyez bien, puisque la conception qui vient de la déchéance de la Jama en lui est une conception qui vient de du transport de la semence dans l'air à travers un orgasme bien réel entre l'homme et la femme, bien séparé, donc sans unité, sans sponsalité. Et les aimants de l'air, qui sont des aimants incubes et succubes, sont simplement porteurs dans la possession des éléments de l'air, du feu et puis du souffle, du transport de cette semence par justement la spiritualité des énergies jamaïques dans le ventre et dans l'utérus de la femme. Donc c'est une conception d'homme et de femme, mais quand même par médiation diabolique. Ça n'enlève pas la liberté de l'innocence créée dans son âme par Dieu à l'Antichrist. Ça ne l'enlève pas, il est libre et sa vie entière le prouve. C'est qu'il adhère librement à la rédemption du Seigneur jusque dans les plus grandes perfections de l'union transformante. Ce qui montre bien sa liberté, mais la pointe de jalousie dans sa présomption anéantit la véridité surnaturelle de son âme pour que, voilà, il aille au sommet de la réalisation de ce qu'il pourrait être sans Dieu, et ça l'éblouit. Lucifer a été donc, lorsque Dieu a commencé à créer la terre, il était déjà revêtu de toutes les vertus des pierres précieuses, Lucifer. Toutes les vertus des pierres précieuses. Il était orné de ces myriades de pierres précieuses, l'or, la saphir, les moines, tout ça. Et lorsqu'il a été déchu, Dieu l'a dépouillé de tous ces ornements de pierres précieuses qui ont été fondus dans la terre qu'il créa. C'est au déluge que ces pierres précieuses sont remontées à la surface, comme saint Hildegard nous l'a dit hier. Et ces pierres précieuses, donc Lucifer en est jaloux, elles lui appartiennent dans l'origine. Et elles contiennent le feu qui doit le brûler dans l'enfer éternel après la résurrection. C'est la brûlure de ce feu qui fera son tourment, entre autres. Mais ces vertus nous placent dans le miracle des trois éléments et dans la foi catholique, dans la capacité donc d'être dans la très au-dessus, comme roi fraternel de lui, pour traverser toutes ces séductions sans être atteint par elles. Encore faut-il pénétrer l'intérieur des attributs divins et qui sont recelés dans la potentialité des éléments de ce qu'il y a dans le diamant. Dans le diamant, pour nous, surtout, c'est le diamant. Pour la vie courante, c'est l'émeraude, voilà, pour la verdure, de la grâce. Le saphir pour la rédemption. Et la patience, la poudre d'or pour la charité, l'or. L'or est précieux parce qu'il porte en lui, si Si nous pénétrons le feu qui lui correspond dans le Christ Jésus, en sa charité surabondante et brûlante, si les éléments nous servent de médiation, puisque les pierres, les éléments sont des médiations par lesquelles la charité, la patience du doux agneau glorifié, l'humilité, nous ont communiqué. Oh non, il faut le rester dormir, le pauvre. Il faut le rester dormir. Saint-Yves de Garde nous plonge dans un profond sommeil. Un sommeil réparateur. Vous savez, quand on fait presque une retraite, si on vit dans la contemplation, ça répare le corps aussi bien que le sommeil. Alors, il a été dépouillé de ses pierres précieuses. C'est extraordinaire, Lucifer. Et Saint-Yves de Garde les reprend parce que ces pierres précieuses ont été données à qui ? Ont été données à qui ? Saint Jean le dit dans l'Apocalypse. La Jérusalem céleste, et la Jérusalem céleste l'obtient de qui ? Celui qui est la pierre précieuse par lui-même. Cette pierre, cet océan de pierres chrysalides vertes, cette glorieuse qui fait le trône du Père, hein, qui est la résurrection de Joseph. C'est Saint Joseph hein, c'est la paternité dans la résurrection de la chair, de la première personne à la troisième, qui fait et qui donne à ces pierres précieuses désormais un pouvoir, une autorité souveraine sur toute la création pour ceux qui le reçoivent par la foi dans l'Apocalypse de Jean, pour notre génération. La foi doit être vive, humble, immaculée, incarnée et pure. On ne peut pas se contenter simplement de se battre contre le péché. En plus, ça ne sert à rien. Le péché nous vaincra si notre vie sur la terre consiste à essayer de rester fidèle contre le péché. Le péché nous vaincra. Parce que c'est la force de Dieu seul qui nous met au-dessus du péché. Et le fruit des sacrements, et ça, Saint-Yves de Garde nous l'apprend, voyez. Homme, apprends ce que je te montre hein, au milieu de la poitrine, de la figure que je te vois, que tu vois. Au milieu de la poitrine de la figure qu'en effet que j'avais contemplée au sein des espaces aériens du midi, voici qu'apparut une roue d'une merveilleuse apparence. Elle contenait des signes qui la rapprochaient de cette vision en forme d'œuf que j'avais eue voici 28 années. Et que j'avais décrite dans la troisième vision de mon livre Le Scipias. Sous la courbure de la coquille, vous avez très connu cette peinture de Saint-Yves de Garde. Sous la courbure de sa coquille, celui-là, on va le commenter, celui-là. On va le lire. C'est dommage, c'est pas grave, elle y est pas. Sous la courbure de la coquille, dans la partie supérieure, apparaissait un cercle de feu clair qui dominait un cercle de feu noir. Le cercle de lumière était deux fois plus épais que celui du feu noir. Et les deux cercles étaient unis comme s'ils n'en formaient qu'un. Et sous le cercle noir apparaissait un cercle qui ressemblait à du pur éther, aussi épais que les deux premiers cercles réunis. Venait ensuite un cercle qui était comme de l'air chargé d'humidité. Faut vraiment pas avoir peur de sa tête de garde, hein. Aussi épais que le cercle du feu lumineux. Et sous le cercle d'air humide apparaissait un cercle d'air blanc. Ça en fait des cercles. Dense, dont la dureté évoquait celle d'un tendon humain. Il avait l'épaisseur du cercle de feu noir. Les deux cercles étaient également liés entre eux comme s'ils n'en formaient qu'un. Enfin, sous cet air blanc et ferme, se montrait une seconde couche aérienne, ténue elle, qui semblait s'étaler sur tout le cercle, en paraissant soulever des nuages, tantôt des nuées. Je pense que nuage, c'est une mauvaise traduction de l'allemand. Je pense que c'est nuée. C'est une opinion personnelle, non, c'est rien. Faudrait le lire en allemand. En paraissant soulever, allez, disons que c'est nuée, allez. En paraissant soulever des nuées tantôt claires, tantôt basses et sombres. Ces six cercles étaient liés entre eux, sans espace intermédiaire. Le cercle supérieur inondait de sa lumière les autres sphères, cependant que le cercle de l'air aqueux imbibait tous les autres de son humidité. Pas de son humilité, mais de son humidité. De l'extrême est de la roue, de l'extrême est pour vous, c'est l'extrême est de la roue, partait en direction du nord et jusqu'à l'extrême ouest, une ligne qui séparait, pour ainsi dire, la zone septentrionale des autres zones. Au centre de la sphère d'air subtil, on distinguait une autre sphère dont la circonférence était à égale distance de l'air dense, blanc et lumineux. Et le diamètre de cette sphère correspondait à la profondeur de l'espace qui allait de la partie supérieure du premier cercle au sommet des nuages, des nuées, ou encore de la circonférence de la sphère jusqu'aux 10 nuages. Égale distance. La figure de l'homme occupait le centre de cette roue géante. Le crâne était en haut, les pieds touchaient la sphère de l'air dense, blanc et lumineux, les doigts des deux mains droite et gauche étaient tendus en forme de croix en direction de la circonférence, les bras de même, dans la direction des quatre côtés, apparaissaient quatre têtes. Celle d'un léopard, celle d'un loup, celle d'un lion et celle d'un ours. C'est absolument génial.
Un loup, les animaux.
On va y revenir, ne vous inquiétez pas. On va y revenir. Au-dessus du crâne de la figure et dans la sphère de pur éther, je vis un souffle s'échapper de la bouche du léopard. Ce souffle se retournait quelque peu en arrière, puis s'étirait pour revêtir l'aspect d'une tête de crabe. Le crabe avait deux pinces comme deux pieds. Sur le côté gauche, le souffle prenait occidental. Sur le côté gauche, le souffle prenait l'aspect d'une tête de cerf. Les fiançailles spirituelles, sixième demeure. un autre souffle émanait de la gueule du crabe et allait jusqu'à milieu de l'espace compris entre les têtes de léopard et de lion. Et celui qui émanait du cerf allait jusqu'au milieu de l'espace compris entre les têtes de léopard et d'ours. Tous ces souffles avaient, on les a exprimés sur la peinture comme des traits comme ça. Tous ces souffles avaient la même longueur. Tous allaient en direction de la roue et de la figure humaine. Il en allait de même des souffles des autres animaux, le loup, le lion, puis l'ours, et après le cerf et le crabe, le serpent et l'agneau. Tous ces animaux soufflaient eux aussi en direction de la figure humaine centrale. Heureusement que nous avons la doctrine infaillible du Saint-Père, des docteurs de l'Église et la doctrine infaillible de Moïse pour pouvoir entendre ces choses-là à la manière du Verbe primordial de l'Église primordiale de Dieu. Sauf pour les ignorants et les paresseux, ce texte est limpide. Menteur, protestant, hérétique, sadducéen, au-dessus du chef de la dite figure se faisaient face sept planètes. Tiens, les animaux et les planètes maintenant. Trois dans le cercle du feu de lumière, l'une dans la sphère inférieure du feu noir, trois dans le cercle pur éther. Toutes les planètes rayonnaient en direction des têtes d'animaux. Et de la figure de l'homme. Le cercle du feu lumineux englobait également 16 étoiles principales, les docteurs de l'Église. Quatre entre les têtes du léopard et du lion. À la fin de la session, je vous fais faire un examen pour voir si vous êtes capable d'obtenir l'agrégation de Saint-Hildegarde. Et vous allez essayer de deviner de ces quatre qui ils sont parmi les docteurs de l'Église. En fonction de ce qui en a été dit. Ce qui est l'enfance même de la compréhension de la foi toute pure, de l'innocence retrouvée, de l'intelligence dans le souffle et le feu des éléments. La discipline que je me suis imposée est difficile. Au-dessus du chef de la dite figure, toutes les planètes rayonnaient en direction des têtes d'animaux. Quatre entre celles du loup et du lion, donc du loup et du lion, quatre entre celles du loup et de l'ours, du loup et de l'ours, quatre entre celles de l'ours et du léopard. Huit d'entre elles occupaient une position intermédiaire et elles s'assistaient l'une l'autre. Elles étaient situées entre les têtes et elles s'envoyaient l'une l'autre leurs rayons qui frappaient la couche d'air mince. Les autres huit à côté des autres têtes d'animaux frappaient de leurs rayons le cercle de feu noir. Deuxième cercle. le cercle de pur éther et celui de l'air dense, blanc et lumineux, étaient eux aussi pleins d'astres dont les rayons frappaient les nuages qui s'étendaient en face d'eux. Dans la partie droite au céleste, l'image décrite, deux langues distinctes l'une de l'autre formaient comme deux ruisseaux qui se déversaient sur la roue et sur la figure humaine. C'est pour ça que vous voyez, vous avez deux ruisseaux là-haut sur la tête de Saint-Hildegarde. Il en allait de même sur la gauche. C'était comme un bouillonnement de rue. Un bouillonnement de rue, R-U-S. Ces signes enserraient comme un réseau la figure de l'homme. De la bouche de la figure qui abritait la roue en sa poitrine, je vis aussi émaner, émanation. Un rayonnement de lumière aussi clair que la plus claire des journées. C'est facile quand vous entendez, vous allez quand même. Bon. Tiens, 10 ans après, toujours les mêmes. Ah. Vous moquez de Saint-Hildegarde. Vous trouvez que Saint-Hildegarde est visible. C'est beau, hein? La bouche de la figure qui abritait la roue en sa poitrine. Je vis aussi émaner, émanation, c'est ça qui est important, émanation. Dans le catéchisme, émanation, c'est quoi? Bon, oui, c'est déjà pas mal. Inspiration passive. Tous les signes circulaires dans ces rayonnements, pardon, je vis émaner un rayonnement de lumière aussi clair que la plus claire des jours. Limpide. D'ailleurs, le Seigneur va nous l'expliquer. La deuxième vision, tous les signes circulaires dans ces rayonnements, tous les signes également, je découvre avec vous, hein, je n'avais pas lu, hein, j'ai pas eu le temps. Donc tous les signes circulaires dans ces rayonnements, tous les signes également de toutes les autres figures qu'on discernait sur la dite roue, les différents signes également qui structuraient la figure humaine, l'image qui était au centre de la roue des mondes, tous ces signes étaient mesurés d'après une échelle de droiture d'une précision extrême. Nous le comprenons à la lumière de ce qui précède et de ce qui suit. Je perçus à nouveau une voix qui descendait du ciel et qui s'adressait à moi en ces termes. Dieu, pour la gloire de son nom, a créé la composition élémentaire du monde. Dans ce que nous lisons, c'est élémentaire. Il l'a renforcé avec l'aide des vents. Il lui a donné la cohérence et la lumière avec l'aide des astres. L'incarnation, l'Immaculée Conception et les splendeurs accomplies de l'Église. Et il l'a peuplé de toutes les autres créatures. Le monde a été créé. À partir des saints. pas été créé à partir de la cause efficiente. Dieu est un ergueillard protein. C'est la cause finale. Et il descend son bois dans le temps pour nous créer. Marquez-la. L'homme, il l'a entouré pour le renforcer de tout ce qui existe dans ce monde et il l'a transpercé du flux d'une grandiose énergie afin que toute la création en tout l'assistât. Toute la nature dut ainsi être à la disposition de l'homme afin que, avec elle, œuvra l'homme. Lui qui ne peut sans elle ni vivre ni survivre. C'est ce que te montre la dite vision. Dans la poitrine de la dite apparition se montre une roue, merveilleuse à contempler avec tous ses signes, proche de cette image en forme d'œuf que voici 28 années tu as perçue, comme nous l'avons dit dans les visions précédentes. C'est que la forme du monde existe. Le monde n'est pas un chaos. Il a une phusis. Impérissable, cette forme, dans le savoir du véritable amour qu'est Dieu. Éternellement, elle tournoie, merveilleuse pour la nature humaine. Aucun âge ne la consume. Aucune nouveauté ne l'a grandie. Comme Dieu au commencement la créa, jusqu'à la fin des temps, elle perdurera. En sa prescience et en son opération, la déité forme un tout, à l'instar d'une roue. Elle est insécable. Elle n'a ni commencement, ni fin. Personne ne peut l'embrasser. Elle ignore en effet le temps. Comme un cercle enferme en soi tout ce qui est en lui caché, la déité sainte en elle enferme tout sans restriction. Elle transcende tout. Personne n'a jamais vu encore en sa puissance la fragmenter, n'a pu encore en sa puissance la fragmenter, ni la dominer, ni l'achever. Si dans les visions précédentes, nous t'avons révélé la dite figure sous la forme d'un œuf, c'est que cette analogie te permettait de saisir au mieux la distinction des éléments du monde. En effet, la structure multiple de l'œuf ressemble à la multiplicité des divisions du monde. Dans les deux cas, ce sont les éléments différents que l'on distingue. La roue, elle, évoque exclusivement la révolution, l'exact équilibre des éléments du monde. Aucune de ces deux images ne représente totalement la forme de ce monde. Tout alentour, il est entier, rond, il tournoie sur lui-même. Une sphère ronde qui tournoie sur elle-même n'en offre pas moins plus de ressemblance avec la forme du monde. Le cercle du feu lumineux, premier cercle, signifie que le feu, premier élément, se porte tout en haut. Parce qu'il est léger. Il inclut tous les autres éléments et il les illumine. Il pénètre toutes les créatures auxquelles il fait don de la joie de sa lumière. Symbole de la puissance. Dieu, qui est au-dessus de tous et qui à tous confère vie. Sous ce cercle de feu lumineux se trouve un autre cercle de feu noir. Il est patent que ce deuxième feu est soumis au premier. C'est un feu du jugement, presque un feu de Guéhenne, créé pour la punition des méchants. Il n'épargne rien de ce qui frappe son juste arrêt. Signe que toute personne qui s'oppose à Dieu tombe dans les hasards de la ténèbre et la légion des fléaux. En effet, quand le soleil en été monte dans le ciel, le feu, par l'incendie de la foudre, exerce la vengeance de Dieu. Quand le soleil en hiver descend, le feu, par la glace, les frimas et la grêle, inflige les sévices de la justice. Par le feu, par le froid, par d'autres plaies, tout péché encourt donc le châtiment qu'il mérite. Le cercle de feu lumineux est deux fois plus épais que le cercle de feu ténébreux. Si c'était le contraire, le feu noir exercerait une action si puissante, si amère, qu'il ombragerait et qu'il dissiperait le feu lumineux supérieur. Le châtiment des péchés de l'homme offre des dangers semblables. Sans la grâce, sans la miséricorde divine, l'homme ne pourrait pas subsister. Si les deux cercles sont réunis en un cercle unique, c'est que tous deux brûlent dans l'ardeur de leur ignition. Ainsi, la puissance et le jugement de Dieu sont fondus en une justice unique. Ils sont en effet inséparables l'un de l'autre. Au-dessous de ce cercle de feu noir est un autre cercle de pure éther, aussi épais que les deux zones ignées dont nous venons de parler. Sous les strates ignées, donc la lumineuse et la noire, s'étend le pur éther. En sa rotondité, il embrasse le monde entier, il s'en échappe comme des éclairs, des flammes, comme un feu qui s'embrase. C'est une allusion à la pure pénitence des pécheurs. À chaque fois que vous faites une pénitence remplie d'amour surnaturel, un pneumatos surnaturel parfait, vous mettez en œuvre toutes les fécondités de ce troisième cercle. Dans l'ensemble de la création, et même dans le monde de la résurrection, parce que le monde de la résurrection est créé. Il ne faut jamais oublier ça. Et il va falloir que nous mettions en branle tous les cercles. Dans l'autorité que nous avons, pour le rassemblement des éléments dans les cercles de Dieu. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre à chaque fois. Si cette strate a l'épaisseur des deux zones ignées concentriques, c'est que son éclat provient de ces deux feux ensemble. Des deux, elle hérite la densité, et elle n'est pas plus douce dans l'éclair du feu lumineux qu'elle n'est ferme dans le reflet du feu noir. C'est parce qu'elle décide du juste jugement de Dieu. Le jour, la nuit, par eux-mêmes, ne prouvent rien. Ils prouvent uniquement ce qu'a décidé la volonté divine. Or, la dite zone éthérée, donc le troisième cercle, retient ce qui est au-dessus d'elle tout autant que ce qui est en dessous d'elle. Il ne faut pas que soit dépassée la mesure décidée, pas d'excès. La décision du juge, en effet, ne s'abat pas par son intermédiaire sur l'une ou l'autre créature. L'éther oppose la résistance subtile et équilibrée de sa nature. La pénitence rééquilibre tout. De même, le repentir limite le châtiment du pécheur. Cette zone a l'épaisseur de deux strates ignées supérieures. C'est afin que l'homme qui se repent médite dans le feu lumineux sur la chute du premier ange, qui était un ange de lumière, tout en réfléchissant dans l'épaisseur du feu noir sur la chute des hommes, qui pêchent de par leur incroyance et par leur témérité. Quelle audace d'accepter un péché. Tu donnes une parole malfaisante pour salir ton prochain, même en disant la vérité sur son. Quelle audace! C'est le feu noir. Il faut être fou. L'homme qui considère ainsi et la puissance et le juste jugement de Dieu doit se repentir dans la pureté et la dignité. Sous ce cercle concentrique de pureté s'étend un autre cercle d'air à queue. Oh, que je l'aime, ce cercle, le air à queue. La contemplation, l'air parfaite, la plénitude de grâce parfaite et immaculée. La création de Dieu, qui, sur toute sa circonférence, a l'épaisseur de la zone du feu lumineux. Ouais, la même épaisseur que le cercle d'amour immaculé de la justice de Dieu. Ouais, Joseph et Marie se retrouvent bien là. Hein. Ce cercle indique sous le cercle éthéré que nous avons décrit la présence dans l'enceinte du firmament des eaux dont nous savons l'existence au-dessus du firmament. Son épaisseur, celle du feu lumineux dont nous avons parlé. Cette air à queue désigne les œuvres saintes qu'accomplissent ces modèles que sont les justes. Elles ont la pureté de l'eau, elles purifient toute œuvre impure, de même l'eau lave toute saleté. Sa nature est donc de pouvoir porter à la perfection ce qu'enflamme par son intermédiaire dans la grâce de Dieu, le feu du Saint-Esprit. C'est bien elle. Sous ce cercle d'air à queue se montre un autre cercle d'un air blanc, donc cinquième cercle, et ferme, aussi fortement tendu qu'un tendon humain. Opposé au danger des eaux supérieures, ce cercle contient par sa puissance et par sa tension des inondations. Les inondations qui proviennent des zones supérieures. Par leurs débordements soudains et démesurés, elles pourraient submerger les terres. Pas les terres, E-T-H-E-R, mais les terres. Voici ce que cela signifie pour la vie spirituelle. Le discernement conforte les œuvres saintes avec la modération qui convient. De même, l'homme contient son corps pour éviter que trop tendu il n'aille à la ruine. Et sur tout son pourtour, ce cercle à l'épaisseur de la zone de feu noir, celui-là est autant destiné au service de l'homme que celui-ci à la punition des pécheurs. Il arrive souvent que le juste arrêt de Dieu, lors de la punition des hommes, laisse les eaux supérieures traverser à nouveau les nuages, une certaine masse liquide qui provient de la zone aérienne aqueuse pénètre alors l'air blanc, clair et ferme, et ainsi parfois une boisson envahit la vessie sans lui porter préjudice. Il peut aussi arriver que l'inondation de ces eaux supérieures déferle en provoquant de grands dangers. Le discernement décide de toutes les œuvres des hommes pour leur salut avec la modération qui convient. Le jugement des hommes, quand il s'accomplit, ne transcende pas le péché des hommes. Il apprécie au contraire en toute justice les 10 péchés. Protecteur et souverain, tiennent entre eux une balance égale. Ces deux zones sont à ce point unies l'une à l'autre qu'elles paraissent ne former qu'une unique strate. Elles baignent toutes deux dans l'humidité et elles transmettent à d'autres cette humidité. De même, le discernement, sa modération, contient les œuvres bonnes pour leur éviter la ruine. Sous le cercle d'air blanc et ferme, il en est un autre qui a nom couche aérienne mince. Cela signifie que les cercles et les éléments supérieurs exhalent. Exhalation. Exhale un air qui n'est pas distinct de ces éléments. De même, l'air sort des poumons de l'homme sans s'en séparer réellement. comme les nuages qui sont pleins de lumière quand ils s'élèvent et qui, lorsqu'ils redescendent, sombragent. La zone aérienne dont nous parlons semble contenir toutes les émanations aqueuses dont nous avons parlé. Elle les rassemble comme le soufflet du forgeron, on voit le souffle, avant de l'aspirer à nouveau. Et ainsi, il arrive que les étoiles qui circulent dans les couches ignées supérieures soient animées dans leur rotation d'un mouvement ascendant. Les nuages les forcent à redescendre et leur brillance augmente. Lorsque leur rotation suit le mouvement contraire, les étoiles abandonnent les nuages. Ceux-ci alors se couvrent d'ombre et libèrent leur précipitation. Nous constatons que cette couche d'air mince s'étend sur tout le pourtour de la roue. C'est qu'elle anime et soutient la création tout entière. Ainsi, sous la protection du discernement, le vrai désir des hommes qui croient et qui aspirent subtilement à la justice s'exhale des énergies supérieures que corrobore l'Esprit Saint. Voyez, l'infaillibilité. Ce désir ne s'en détourne pas. Dans un attachement respectueux, il leur demeure lié. La ferme détermination des croyants resplendit parfois dans la confiance. Parfois, elle tremble dans l'humilité quand elle attribue à Dieu les fruits des saintes œuvres et de l'exemple des justes. Alors, elle sait les y rassembler et l'ouvrier voit sa peine récompensée. La science véritable qui est née dans l'ardeur de l'Esprit Saint élève en effet les hommes vers les biens célestes en les justifiant. C'est la foi qui justifie. Vous voyez bien que ce cercle-là, celui de l'infaillibilité, la science et la foi infaillible. Elle y entraîne leur esprit et les y purifie. Mais quand elle s'abaisse jusqu'aux nécessités de l'existence corporelle, elle y abaisse leur esprit également. Aussi ces hommes, au milieu des soucis du quotidien, paraissent-ils comme égarés. En eux, ils portent la rosée des larmes. C'est qu'ils soupirent accrochés qu'ils sont à la terre, alors qu'ils se sont totalement abandonnés à la toute-puissance divine. L'esprit de science de Dieu viendra les affliger. Ils auront le paraclet. C'est le fruit de l'infaillibilité. C'est le passage des sept dons du Saint-Esprit au paraclet. Il faut beaucoup aimer le Saint-Père. On ne se sépare jamais du Saint-Père. Jamais. Tous ces six cercles sont liés entre eux, sans espace pour les séparer. Inséparables. Si l'ordre divin ne les avait pas consolidés en les reliant ainsi entre eux, le firmament aurait éclaté. Il aurait perdu sa consistance. C'est une allusion au rôle que joue l'Esprit Saint chez le croyant. Son infusion relie entre elles les vertus parfaites. Dans leur lutte contre les vices du diable, celles-ci peuvent alors accomplir unanimement toute œuvre bonne. Le cercle supérieur pénètre de son feu toutes les autres zones. Le cercle à queue fait de même grâce à son humilité. L'élément suprême, le feu, conforte en effet les autres éléments grâce à son énergie, son énergie et grâce à sa limpidité. Et l'élément à queue, quant à lui, confère à tout le reste la viriditas. Le prophète Jérémie l'avait dit, la femme enveloppe l'homme. La toute-puissance de Dieu sanctifie ainsi par les merveilles de sa grâce les fidèles Cependant que les œuvres de ces mêmes fidèles s'élèvent dans la véritable humilité, de la sainteté, la bienveillance de leur Créateur. Du bout de la zone située sur la roue à l'extrême est, pour vous c'est là, s'étend jusqu'à la limite de la zone occidentale, une ligne qui part dans l'univers en direction du nord et qui isole en quelque sorte la région septentrionale. De la zone première du levant, là où le soleil se lève pour la première fois quand les jours rallongent, jusqu'à la zone extrême du couchant, là où le soleil ne prolonge pas son rayonnement, cette ligne se courbe et se recourbe pour éviter la région septentrionale. Ouais, c'est pas du tout la même chose que dans la dixième vision. Quand vous connaîtrez par cœur les 70 visions, vous êtes sauvés. Il se tire. Il se tire.
Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a?
Ça n'a aucune espèce d'importance. Il y a eu un mouvement, c'est tout. Il faut arracher les racines du mouvement dans l'humanité tout entière et le remplir des dons, des éléments purifiés par l'Esprit Saint. N'oubliez jamais qu'il faut le faire à chaque fois qu'il y a un mouvement. Sinon, ce mouvement se refera une seconde fois jusqu'à faire tomber dans l'aquilon la création tout entière autant que Dieu le permettra, parce qu'il y a quand même la couche aqueuse. Il ne faut pas supporter un mouvement. Aucune inquiétude. Dès qu'on est dans la quatrième demeure, le mouvement n'existe plus. La stabilité parfaite et insécable. Continuons. Donc, ces territoires, en effet, ignorent le rayonnement du soleil. Ce dernier les délaisse depuis le jour où le séducteur y a élu domicile. Ainsi, Dieu tient le soleil éloigné de ces zones. De même, le croyant du début des bonnes œuvres qui repose dans la puissance divine jusqu'à leur achèvement oppose la rectitude de sa justice à l'injustice. Il distingue les artifices diaboliques des œuvres bonnes et saintes, parce que désireux qu'il est d'un attachement fidèle à Dieu, il met tout son zèle à éviter ce qui pourrait blesser son âme. Écoutez ce qu'en dit l'Écriture. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai aussi un caillou blanc, un nom nouveau que personne ne connaît hormis celui qui le reçoit. Entendons-le ainsi, celui qui fuit la partie gauche assume un grand combat contre le serpent tortueux. Toujours le serpent veut l'attirer à gauche. Mais s'il tient bon dans la bataille, s'il fuit Satan, s'il refuse de souscrire à son conseil, je lui donnerai, moi qui suis le pain vivant qui descendit du ciel, le pain qui se cache autant de la toute bassesse du désir de l'homme que de la toute ruse du vieux serpent. En échange, je lui ferai don de la communauté avec celui qui est la pierre d'angle, avec celui qui est Dieu et homme dans une candide clarté. Et lui vit Christ, le nom de la nouvelle naissance. Et c'est de Christ que nous tenons notre nom chrétien. Cela, personne ne peut parfaitement le comprendre tant qu'il mène une vie éphémère, esclave du temps, à moins qu'il ne gagne la béatitude de la vie éternelle en récompense de célestes faveurs gratuites. Il y en a qui sont sauvés comme par miracle, parce que d'autres ont prié pour eux. Sinon, ils sont perdus, éternellement. La sphère qui se trouve au milieu de ce cercle d'air mince, à égale distance sur tout son pourtour du cercle d'air dans ses plans, c'est la Terre placée au milieu des autres éléments, de tous ces éléments qui la gouvernent. Tous en effet, dans une mesure égale, tout alentour la soutiennent. Ouais, la Terre, c'est l'humanité tout entière. Elle leur est reliée, elle reçoit d'eux continuellement pour sa subsistance la virilité et l'énergie. Si vous permettez, je dirais énergia, parce que l'énergie a été tordue dans son sens par le langage courant. La vie active symbolise en quelque sorte la terre. Elle aussi, en effet, se meut au milieu des justes désirs. Elle s'agite en tous sens. Elle tourne sans cesse. Mais elle modère et elle mesure son abandon, tout en se réservant pour les forces du discernement. Elle se soumet ainsi tour à tour aux énergies spirituelles et aux nécessités du corps, toujours avec tempérance. Aimer le discernement, c'est orienter toutes ses œuvres sur la volonté de Dieu. Le diamètre de cette sphère correspond à la profondeur de l'espace qui s'étend de l'extrême bord de la zone supérieure à la frontière inférieure des nuages, ou encore de la frontière de ces nuages au sommet de la dite sphère. C'est que le Créateur suprême a ramassé, affermi la masse terrestre de telle sorte qu'elle ne peut être dissoute ni par le fracas des éléments supérieurs, ni par la force des vents, ni par le déluge des eaux. Les fidèles d'eux-mêmes considèrent dans l'épanchement de leur cœur la grandeur de la toute-puissance divine. Ils constatent l'instabilité de leur esprit et la débilité de leur cœur. Ils tempèrent ainsi tous les actes afin de ne pas perdre pied en dépassant la juste mesure par les nécessités autant supérieures qu'inférieures, comme Paul le recommande à ses fidèles, agissez en tout sans murmure ni contestation, afin de vous rendre irréprochable et pur, enfant de Dieu immaculé au sein d'une génération dévoyée et pervertie, d'un monde où vous brillez comme des foyers de lumière en lui présentant la parole de vie. Entendons-le ainsi, l'homme est comme à un carrefour. S'il cherche dans la lumière le salut qui vient de Dieu, il l'obtiendra. Si c'est le mal qu'il a choisi, il suivra le diable pour le châtiment. À l'homme, en effet, de supporter sa nature et toutes ses œuvres sans murmure. Sans murmure. Sans les bosses du péché. Le murmure, ça fait gonfler des bosses. C'est comme les crapauds, vous savez. Saint Benoît, deuxième degré d'humilité. Premier degré d'humilité, ne jamais arriver en retard. Deuxième degré d'humilité. Oh, j'arrive toujours à l'heure. Pile. Mais... père Gérard Delorier au Solchoir. C'est d'une précision extrême. L'homme le plus intelligent du monde. Il est mort en 84. Quand il écrivait un livre, un jour le père Marido va le voir. Il dit, il était plus jeune, Marido. Il dit, votre livre, à votre avis, combien de personnes dans le monde est capable de le comprendre? Le père Gérard avait répondu, deux. Peut-être trois. Et c'était vrai. C'est le seul théologien du monde qui a écrit quelque chose de sublime sur le mystère de la prédestination de Marie. Et ce livre n'a jamais été édité. D'une intelligence remarquable. Il faut joindre à l'intelligence le 11e degré d'humilité. Alors, quand pour être sûr d'être en humilité, il n'arrivait jamais en retard à l'office. Jamais. Il était d'une précision dans le temps, la durée, les éléments, les mots. Et l'énergéia de la communication de la grâce et de la doctrine infaillible de l'Église, en l'expliquant avec une précision extrême. Donc, arrivé à l'office, il arrivait à l'office, il passait la porte de la chapelle, et il arrivait à sa place, et c'était dans la demi-seconde qu'il y avait le ping du commencement de l'office. Alors un jour, Père Marido, avec deux autres novices, on dit, se mettre dans le cloître juste avant l'entrée de la porte. Au moment où il va passer, tant qu'on a tiré une corde, le père Gérard Delorier est tombé. Il est arrivé en retard à l'office.
Ah, c'est pas gentil, ça.
Il ne peut pas arriver à l'heure. Ce qu'a dit le pape Jean-Paul II, il faut arriver avant.
Avant l'heure.
Premier degré d'humilité. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous n'avez jamais, 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 jamais connu ce que c'est que même le petit premier degré d'humilité, minuscule. Alors, attention, hein. Deuxième degré, le murmure. Ah, j'arrive à l'heure, mais bon, qu'est-ce qu'ils sont stupides? Qu'est-ce qu'ils sont grégaires? Ah, la coquine. Eh, le crapaud, ça fait des bosses. C'est pas l'humilité, ça. Je dis rien. À l'homme, en effet, de supporter sa nature et toutes ses œuvres sans murmure, sans les bosses du péché, sans contestation, en se conduisant comme un vrai croyant. S'il aime le bien et s'il déteste le mal, il ne mettra jamais en doute sa libération au jugement dernier. Il sera ainsi séparé de toutes les créatures qui ont dévié du bien en embrassant le mal. Ceux qui agissent ainsi en ne blessant personne vivront en fils de Dieu dans la simplicité de leurs œuvres bonnes. Ils éviteront les cris et les plaintes d'usage. Insensibles aux pièges de la séduction, ils encourront l'estime de ceux qui se félicitent de leur courage dans une génération dévoyée et pervertie. Dans la perfection de leur foi véritable, ils brilleront comme ces astres dont la mission est d'illuminer le monde ainsi qu'en a décidé le Créateur de l'univers. Par leur doctrine qui tient aussi compte de la vie, Ils convertiront bien des hommes à Dieu. Le Fils de Dieu, lui aussi, a donné sans péché qu'il était. Parce que quand vous avez un mouvement, il faut faire les quatre opérations du pardon, etc. Mais vous pouvez le faire aussi pour le mouvement de l'autre. Ça vous évitera de murmurer. Quand vous voyez par exemple une mouche pendant l'oraison qui fait trop de bruit, ben vous faites comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Le mouvement de l'eau vient purifier la vessie des eaux profondes. Le Fils de Dieu lui aussi a donné sans péché qu'il était à tous en ce monde la lumière. Dieu a placé au firmament deux luminaires, le soleil et la lune, qui désignent dans l'homme la science du bien et du mal. De même que le firmament est consolidé par le soleil et la lune, l'homme est dirigé diversement par les sciences du bien et du mal. De même cependant que le soleil achève sa course sans raccourcir sa circonférence, la science bonne suit son cours sans désir du mal. Bien au contraire, elle rabaisse, elle accuse, elle détruit même la science du mal inutile. Elle l'avoue à la géhenne parce qu'elle a cherché à assouvir ses désirs, des désirs propres. Comme la lune décroît, puis croît, la science du mal considère celle du bien, elle la dit sotte, voire vaine, bien qu'elle la connaisse bien. De même, le diable connaît Dieu, bien qu'il s'oppose à lui. La présence d'une force humaine au sein de la roue, la tête en haut et les pieds vers le bas, touchant le cercle d'air dense et blanc, cependant que les bouts des doigts des deux mains se tendent dans la direction du même cercle, comme si les bras étaient tendus à l'extrême, à la signification que voici, l'homme dans la structure du monde est pour ainsi dire en son centre. Il a plus de puissance que les autres créatures qui demeurent cependant dans la même structure. S'il est petit de stature, il est grand de par l'énergie de l'âme. La tête levée et les pieds bien calés, il est capable de mouvoir les éléments d'en haut comme les éléments d'en bas. Et les œuvres de ses deux mains pénètrent le tout parce qu'il a, par l'énergie de l'homme intérieur, la possibilité de mettre ce pouvoir en œuvre. Le corps est plus grand que le cœur. Le corps est plus grand que le cœur. Les énergies de l'âme dépassent en puissance celles du corps lui-même. Le cœur est caché au fond du corps. Le corps est entouré de ces énergies de l'âme qui s'étendent sur l'orbe de la terre tout entière. L'humanité. Ainsi, c'est dans la science de Dieu qu'existe le fidèle. Et c'est à Dieu qu'il tend dans la nécessité de l'esprit du siècle et du temps. C'est à Dieu qu'il aspire dans toutes ses entreprises prospères ou adverses. En elle, en effet, il ne cesse de manifester à Dieu tout le respect qui l'anime. L'homme contemple de ses yeux de chair tout alentour les créatures. Dans la foi, partout, il voit Dieu, il le regarde. C'est Dieu que l'homme reconnaît en toute créature. Il sait Dieu, leur créateur. Les quatre têtes du léopard, du loup, du lion et de l'ours apparaissent dans les quatre contrées qui sont aussi les demeures des vents aux quatre côtés de l'univers. On va pouvoir relire le prophète Daniel. Et le prophète Yohanan ben Zebuda. Les quatre vents n'ont pas bien entendu cet aspect, mais leurs énergies ressemblent à la nature de ces animaux, leur energeia. En une certaine mesure, en effet, l'homme existe au carrefour des soucis du siècle. Il est l'objet d'une foule de tentations. Or, la tête du léopard lui rappelle la crainte du Seigneur. Celle du loup, les châtiments infernaux. Celle du lion, la crainte du jugement de Dieu. L'ours, quant à lui, évoque la foule des ouragans et des angoisses qui assaillent son corps. La tête de léopard se trouve dans le cercle de pur éther. Le vent principal est accompagné des deux vents annexes, l'un sous l'aspect d'une tête de crabe et le second sous l'aspect d'une tête de cerf. Toutes ces têtes projettent leur souffle sur la roue en direction de la figure humaine. Les vents, en effet, tempèrent le monde de leur souffle. Leur ministère préserve le salut de l'homme. S'il n'était pas vivifié par ses souffles, le monde ne pourrait survivre ni l'homme vivre. Lorsque l'homme s'exalte dans la contention de son âme, se rappelant ses méfaits et se disposant à la pénitence, voici que surgit au-dessus de la tête de cette figure, dans le signe du pur éther de la pénitence, tel un léopard à la crainte de Dieu. De sa gueule, entendons, de sa force propre, elle provoque la contrition. Touchant l'esprit de l'homme, elle lui donne la chance de parvenir jusqu'à la tête du crabe, qui représente la confiance. Ce crabe a deux pinces qui sont comme deux pattes, l'espérance et le doute. Ainsi, dans les contradictions de l'esprit, développant cette même contrition, la crainte de Dieu mène-t-elle à la tête du cerf qui représente dès que l'homme en effet prend conscience du fardeau de ses péchés, vous voyez, on rentre vraiment dans le monde pneumato surnaturel après la cinquième demeure. La foi, c'est pneumato surnaturel, c'est divin, c'est purement divin. La lumière de la foi, elle nous envahit. Il n'y a plus que Dieu en nous. Si vous faites un acte de foi, vous envahit la lumière et il n'y a plus que Dieu. Ah, ça y est, j'ai fait un acte de foi. C'est le cerf. J'étais passé à la cinquième. Je vole librement. Comme la colombe. Consolation, la brise fraîche du vol. Du cerf assoiffé sur la montagne et blessé. Saint Jean de la Croix. D'ailleurs, elle va le dire, hein, que les 16 étoiles, c'était les 16 docteurs, se regroupent 4 par 4 pour se faire comprendre mutuellement l'un à l'autre. La confiance engendre l'espérance auquel se mêle parfois le doute. Dans la confiance en Dieu, l'homme espère obtenir la rémission de ses péchés. Ainsi, il avance. Souvent, cependant, il se demande si ses péchés lui seront un jour remis. Dans ce cas, il recule. Endurant par ailleurs parfois les assauts des maux corporels, il se tourne vers les richesses de la foi qui réduit à néant en lui, sur les cornes de la vraie consolation, les trahisons du doute. Ainsi, la gueule du crabe, de la confiance donc, engendre un second souffle, le souffle de la constance. Oh, transverbération. Et cette constance mène à la plénitude de la perfection. Transpiration. Elle a sa place entre la crainte du Seigneur et le jugement de Dieu. Quand un homme, en effet, qui a confiance en Dieu, garde la constance et atteint la perfection dans la confiance en Dieu, il attire à soi la crainte de Dieu pour ne pas qu'elle aggrave son cas. Et il considère aussi le jugement de Dieu pour ne pas que les péchés s'ajoutent aux péchés. De la tête du cerf, cependant, de la foi donc, sort un autre souffle qu'il faut interpréter comme sainteté, jusqu'à la plénitude de la perfection qui se place entre la crainte de Dieu et les tribulations du corps. L'homme qui a la foi, en effet, puissant dans la sainteté, persiste dans cette perfection, crainte authentique de Dieu, et continue à la cesse du corps. Bref, toutes ces vertus ont des fonctions différentes, mais elles ont un but unique, la béatitude. Les vertus procèdent en effet l'une de l'autre lors de la formation de la rectitude. Toutes ces têtes, entendons toutes ces vertus, sont dans la science de Dieu. Elles tendent vers cette science, cette connaissance. Elles assistent l'homme dans les nécessités aussi bien spirituelles que corporelles. Et lorsque la crainte du Seigneur en effet inspire l'homme, il commence à honorer son Dieu. Il s'avance dans la sagesse, en accomplissant des œuvres bonnes et justes. La confiance de l'homme à l'égard de son Dieu le touche par la constance. Dans la mesure où il y a une constante confiance en Dieu, dans la mesure où il élève ses pensées vers Dieu, à put, théo, face à face avec Dieu. Puisque c'est par la vertu de constance que sont confortés les esprits des fidèles. La foi, quant à elle, par la sainteté, condamne ce qui doit être condamné dans le manque de foi. Elle s'épanche avec vélocité et elle imprègne bien vite les croyants en chassant de leurs oreilles les tumultes des pensées perverses et en arrachant jusqu'à leurs racines les voluptés lubriques. Or, si l'homme, abandonnant la viridité de ses vertus, se tourne vers l'aridité de la négligence, s'il lui vient à manquer l'humidité, la viridité qui emplisse les œuvres bonnes, les forces de son âme fléchissent et se dessèchent. Et si le luxe des voluptés l'inonde par trop dans un déluge incongru, son esprit lui aussi se dissout sur ses fonds glissants. Mais s'il s'avance sur un sentier droit, toutes ses œuvres conduisent à la prospérité, comme nous l'enseigne le cantique des cantiques. Le roi m'a introduit en ses appartements. Tu seras notre joie, notre allégresse. Nous célébrerons tes amours plus que le vin, comme on a raison de t'aimer. Entendons ainsi ce passage, moi qui ai la foi, moi qui suis l'âme de l'homme. J'ai sur les traces de la vérité suivi le Fils de Dieu dont l'humanité a racheté l'homme. C'est lui qui dirige tout ce qui est. C'est lui qui m'a introduit dans la plénitude de ses dons, en ce lieu où je trouve l'abondance tout entière des vertus, en ce lieu où de vertu en vertu je m'élève. Voilà pourquoi nous tous, rachetés par le sang de ce même Fils de Dieu, nous avons exulté en tout notre corps. Tu as été toute notre allégresse, ô Déité Sainte, toi notre soutien, et nous nous remettons en mémoire la suavité des récompenses célestes qui dépassent toutes les passions, toutes les tribulations qu'ont provoquées les adversaires de la vérité. Elles ne sont plus rien pour nous qui goûtons les délices que tu nous proposes quand tu nous fais montre de tes commandements. Aussi t'aime d'un amour authentique et parfait tous ceux qui sont dans les œuvres d'une sainteté véritable. Puisque tu accordes tous les biens à ceux qui t'aiment, et puisque tu vas également jusqu'à leur attribuer la vie éternelle, la sagesse est une saveur délicieuse, éternelle, qui liquéfie notre chair et la rend subtile et agile dans le flux et le reflux. Donc la sagesse, quant à elle, s'introduit dans les appartements, entendons dans les esprits des hommes. Elle y dépose toute la justice de la foi véritable qui permet la connaissance du Dieu véritable. cette foi pressure à ce point l'hiver et toute la liquidité des vices qui sont ensuite incapables de continuer à verdir et à croître. Mais elle attire à elle, elle s'adjoint toutes les vertus. Elle fait couler dans le vase le vin qui sert de boisson aux hommes. Voilà pourquoi les croyants exultent et se réjouissent en une confiance véritable à l'adresse de la vie éternelle. Voilà pourquoi ils portent les fanions des œuvres bonnes qu'ils ont accomplies. Et c'est qu'ils sont assoiffés de la justice de Dieu. C'est qu'ils sucent à son sein. La sainteté, le saint de Joseph, on va sucer dans Saint Joseph sa sainteté. Et jamais ils ne peuvent être rassasiés s'ils ne se délectent pas toujours de la contemplation de Dieu, puisque la sainteté surpasse tout l'entendement des hommes. Lorsque l'homme en effet accueille la rectitude, il s'abandonne lui-même, il goûte et boit les vertus, elle le conforte comme le vin emplit les veines de celui qui le boit, mais il ne deviendra pas esclave du vice de démesure. Il ne perdra pas la mesure, comme l'œuvre ivre de vin, qui est hors de lui et qui ne prête plus attention à ce qu'il fait. Aussi les croyants aiment-ils Dieu, Dieu qui ignore la lassitude, qui est la persévérance dans la béatitude, et si une tête de loup apparaît au pied de la figure humaine dans le signe de l'air à queue, si un souffle s'échappe de sa gare, cela signifie que le souffle du grand vent d'ouest, au pouvoir de celui qui, pour les hommes, a été créé homme, vient dans la zone occidentale. Et de l'air à queue, comme un loup caché dans la forêt, qui se déchaîne quand il cherche sa nourriture. Sortant de l'air à queue, comme de sa tanière, il fait naître tantôt la verdure, tantôt d'un coup il dessèche et étouffe la végétation. Ses têtes donc envoient leur souffle en direction de la roue que nous avons décrite, et de l'image de l'homme qui est inscrite en elle. Ces mêmes vents préservent les énergéia et les fonctions du monde, de l'homme, de tout ce qui est dans le monde. Lorsque les croyants, en effet, en œuvrant le bien, piétinent par de justes exemples les faiblesses des cupidités terrestres, les peines de l'enfer de leurs œuvres s'échappent comme le loup de l'air à queue, et elles sont comme nues. En cessant de pécher, en montant sur le chemin de la rectitude, ils témoignent de la crainte qui a été la leur devant ces peines infernales qui dévorent les âmes. Un pécheur est dévoré par la peine. C'est pas vrai? S'il voit de plus les bons exemples autour de lui, il endure mieux en lui les nombreuses humiliations. Il les supporte avec patience, il démontre la sainteté de toutes ses œuvres. Et c'est ainsi qu'il faut comprendre les paroles d'Isaïe 5:5. J'ôterai la haie de la vigne. J'aime beaucoup ça. Vous savez, vous avez une vigne et puis vous avez une palissade, une haie. J'ôterai la haie de la vigne pour qu'on la pille. J'en abattrai le mur pour qu'on la piétine. Qu'elle soit saccagée, non plus taillée ni cultivée. Sur elle, épines et ronces, j'interdirai aux nuages d'y laisser pleuvoir la pluie. Ça, c'est le souffle du loup. À droite de la figure humaine, dans le cercle du feu lumineux, apparaît la tête du lion, symbole du vent du sud. Il est accompagné de deux vents latéraux, têtes de serpents et d'agneaux, dotés d'énergie conjointe et distincte à la fois. Nous voyons donc comment les vents soufflent sur la roue et sur la figure de l'homme. Ce sont en effet les dix vents, aussi bien les vents principaux que ceux qui leur sont soumis, qui maintiennent l'énergie de l'univers tout entier et de l'homme, qui recèlent la totalité des créatures. Je pourrais dire lorsque il recèle la totalité des créatures. S'ils ne recèlent que leur péché, ils ne recèlent rien. Que du vide. Il les protège de la destruction. Les vents annexes, quant à eux, souffrent constamment, bien que doucement, tels des zéphyrs. C'était très délicat. Les énergies, les énergéas terriblement puissantes des vents principaux ne sont pas sollicitées. Elles ne le seront que lors du jugement de Dieu. Vous savez, les quatre vents. Retenez les quatre vents. Lorsque la trompette sonna une sixième fois, retenez les quatre vents. Telle est la volonté de Dieu. Le vent du sud apporte la canicule et provoque les grandes inondations. Le vent du nord apporte l'éclair et le tonnerre, la grêle et le froid. Quant au vent de l'est et de l'orient et de l'occident, vents principaux aussi déclenchent leur souffle. S'ils déclenchent leur souffle, c'est pour accomplir les jugements divins, mais avec plus de retenue et de lenteur. Quand on fait mal, c'est pénible, mais quand on fait mal que ça dure, c'est une torture. Quand il les provoque, cependant, par la volonté de Dieu, l'été par le froid ou par la sécheresse, l'hiver par la chaleur, par la pluie ou autre phénomène, les maux qu'ils engendrent sont contraires, nocifs pour la terre et pour les hommes. En outre, de même que les vents soumettent à leurs énergies l'orbe terrestre, ils permettent dans leur fonction à l'homme de savoir et de comprendre les actes qu'ils projettent. Enfin, lorsque ces vents envoient leur souffle sur terre, ils le répandent aussi sous la terre. Ah. Et quand ils pénètrent en certains lieux dans des cavernes souterraines, ils ébranlent la terre quand ils ne trouvent plus d'issue. Quand ils en trouvent une, certains hommes peuvent les voir s'échapper. Mais ce n'est pas là leur lieu d'origine. Ils viennent des éléments supérieurs, comme nous l'avons expliqué. Et ils ne font que s'épancher sur la terre et sous la terre. Le lion signifie le jugement de Dieu aussi terrible qu'équitable. À ses côtés, le serpent signifie la prudence et l'agneau. La patience. Personne ne doit négliger l'ordre des vertus qu'il a lui-même et en lui perçu, parce que l'action de la vertu conduit l'homme à la justice et à la rectitude des choses célestes. C'est le psaume 117 qui le dit. La droite d'Elohim, d'Adonai Elohim a fait prouesse. La droite d'Adonai Elohim a le dessus. Non, je ne mourrai pas, je vivrai, je publierai les œuvres d'Adonai Elohim. Entendons-le ainsi, l'homme par la crainte de Dieu et des peines infernales commence par pencher vers la gauche. Puis ensuite, par l'amour de Dieu, il monte vers la droite, c'est-à-dire vers le désir des choses célestes. Et en ce premier temps, il revêt les armes les plus solides parce qu'il a séparé la science du bien de celle du mal. Vous voyez, d'abord, on aspire à retrouver l'innocence originelle perdue. Mais de là, on va vers la gauche pour retrouver l'innocence glorieuse. Parce que personne ne peut être sauvé par la nostalgie du paradis perdu. Cette double science peut être comparée à l'œil qui a au milieu de son blanc un cercle à queue, comme un vase qui contiendrait un miroir. La science du mal, le côté gauche, ressemble au vase de la science du bien qui procède du côté droit. L'œil droit, en effet, est celui de la science du bien. Regarde de tous côtés pour prendre conscience de l'inutilité de la concupiscence charnelle, incapable de percevoir la lumière de la vérité. Ce qui exulte dans les œuvres impures, la tristesse ensuite l'étouffe comme un déluge d'eau. Ainsi, la part droite de la science du bien s'élève vers Dieu, piétinant les mauvaises puissances et chassant toute tristesse. aussi la droite de Dieu, ton énergie engendre la vertu, qui permet aux hommes sa connaissance par la foi, et l'exécution dans sa crainte de ses œuvres. Par la pénitence, cette droite m'exalte quand j'étais plongé dans la souillure des péchés. Puis, après cette pénitence, elle engendre la vertu qui m'enflamme dans l'amour de Dieu, d'un désir que jamais je ne puis assouvir. Je ne mourrai donc pas dans les péchés quand je renais par la pénitence, mais par cette véritable et pure pénitence que je remets à Dieu, je vivrai pour l'éternité. Ainsi, arraché à la mort, je compterai les merveilles du Seigneur que j'aime, que je crains, puisque c'est lui qui, loin de me livrer à la mort, m'arracha à la perdition infernale. Et c'est pour cela qu'apparaît sur la gauche de la figure évoquée dans le signe du feu de ténèbres une tête d'ours. Ah oui, il montre que le septentrion, pour l'homme, est souvent la source de contrariété, dont la source est le feu de ténèbres. Ce vent principal, tel un ours, le vent du septentrion, déclenche de dangereux ouragans. Comme l'ours en colère gronde, comme l'ours par nature est mauvais, les grondements du vent engendrent des secousses du vacarme, bien des dangers par les tempêtes qu'il soulève. Il n'en a pas moins différentes énergies qui agissent sur l'homme, par les vents annexes, par ces énergies subalternes de l'agneau et du serpent. Ouais. Jamais le souffle de l'enfer ne nous atteint sans que le souffle de l'agneau et le souffle de la sagesse ne viennent souffler sur nous en même temps. Qui d'ailleurs, eux, l'agneau et le serpent, sont en rapport avec les mystistes, avec les systèmes voisins du loup et du léopard. Toutes ces têtes donc soufflent en direction de la roue et de la figure que nous avons détruite. Les vents en effet soutiennent par l'énergie de leur souffle le cercle de la terre et ils forcent l'homme déficient à considérer son bien propre afin d'éviter la chute et la mort. Lorsqu'un vent doté des qualités énoncées se met à souffler, soit naturellement, soit en vertu d'une disposition divine, il pénètre le corps de l'homme sans que rien ne l'arrête. Et l'âme, le recueillant, le guide naturellement vers l'intérieur, jusqu'aux membres du corps, quel qu'il soit, qui correspond à sa nature. Ainsi son souffle tantôt conforte, tantôt frustre l'homme, comme nous l'avons expliqué. Sur l'homme qui jouit de la prospérité des biens du siècle, par le feu du jugement, par le châtiment de Dieu, les tribulations du corps, tel un ours, s'abattent et le contraignent. Ce vent l'empêche alors de céder à ses volontés propres et répartissant sans désemparer son souffle la misère, pour ainsi dire, dans la prospérité comme dans l'adversité, il le force à désirer et à préserver avec humilité la pauvreté spirituelle. Si bien que choisissant la voie de la juste mesure, il embrasse la patience comme dans la tête de l'agneau et il imite la prudence comme la tête du serpent. C'est le seul moyen d'échapper au souffle de l'aquilon et de l'ours. C'est l'humilité, l'esprit de pauvreté. Je suis heureux de renoncer à tous mes droits, même les plus fondamentaux. Très important dans le mariage, par exemple, dans la famille. Ainsi, par tribulation de son corps, l'homme a fréquemment accès aux richesses spirituelles et par elles, il gagne les royaumes d'en haut. C'est ce qu'expliquent les paroles de David. Dans le psaume 117, il m'a châtié, Adonai, il m'a châtié à la mort, il ne m'a jamais livré. Au-dessus de la tête de l'image que nous avons décrite, nous avons énuméré dans la partie supérieure sept planètes. Parce que passer des souffles aux planètes et puis ensuite aux étoiles, c'est une autre affaire. Nous ferons la fois suivante, parce que ça prend du temps. Quoique, on peut le faire, si vous voulez, je ne sais pas quelle heure il est.
2h20.
Ah oui, 2h22. c'est un point intéressant pour nous préparer à l'accomplissement de la vision, de la deuxième vision des œuvres divines. C'est intéressant, hein? C'est pas seulement intéressant, c'est nourrissant, c'est
enrichissant.
Ça a pénétré dans l'oreille et nous le voyons venir dans la lumière pour que l'âme le savoure et que le feu l'harmonise. Vous voyez ça, c'est très important ça, parce que l'âme à ce moment-là, dans les énergies de l'univers entier, dépassant même les énergies de la résurrection, peut faire éclater donc toute son œuvre dans l'œuvre de la foi. Je le répète, même si je ne comprends pas tout, en entendant ces paroles, je sais tout. Alors, le pouvoir de l'humilité prend toute sa puissance. Je suis à l'heure de Dieu, et même avant, je l'anticipe, parce que je suis un précurseur. Comme Saint Joseph, comme l'Immaculée Conception, comme Anne et Joachim, comme Yohanan ben Zepeta, apôtre, a été le précurseur des siècles de l'accomplissement des temps, comme apôtre. Et ce n'est pas une petite affaire que d'avoir été choisi pour entendre ces paroles, comme le demande le Saint-Père. Pour que se mette en branle ce qui contraindra les quatre vents qui sont tenus en réserve.